mastectomie, c'est-à-dire qu'on a enlevé le sein, on a fait un curage axillaire, c'est-à-dire qu'on a enlevé les ganglions qui sont dans les selles, il peut arriver que le bras commence à enfler et ce gros bras-là peut être très très invalidant. On peut également avoir des risques après une radiothérapie sur la paroi thoracique. En fait, c'est qu'une forme d'inflammation qu'on observe, mais ça, ça finit par régresser avec le temps.
Oui, il y a aussi certaines femmes qui perdent leurs cheveux après un traitement du cancer du sein. Est-ce que ces cheveux vont repousser?
Oui, bien sûr. Les cheveux repoussent. D'abord, quand ils repoussent, ils sont soyeux. Ils sont même beaux. Bon, maintenant, quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez avoir les quatre réfrigérants, vous pouvez minorer ce risque-là. Mais chez nous, en Afrique, ici, comme on n'a pas de quatre réfrigérants, on observe que la plupart des dames qui prennent des médicaments qu'on appelle des anthracyclines finissent par perdre leurs cheveux, ce qu'on appelle une alopécie. Mais il faut rassurer les dames. C'est pas parce qu'on a perdu les cheveux que ça va pas repousser. Le plus souvent, ça repousse et les cheveux sont même très beaux.
Alphonse Mouaki, depuis la RDC, s'inquiète du coût des traitements du cancer du sein. Est-ce que vous pensez que ces traitements sont accessibles à toutes les femmes, surtout dans les pays en voie de développement?
Ah non, je ne pense pas que toutes les dames puissent accéder au traitement du cancer du sein. En Afrique, vous savez que nous avons d'énormes problèmes de prise en charge, donc ce sont les malades qui payent leur traitement. Cependant, il y a d'autres pays comme le Mali où le traitement est quasiment gratuit. J'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps avec un de mes assistants qui est maintenant chef de service là-bas à Bamako, qui m'a dit que la chimiothérapie est gratuite, la radiothérapie est gratuite, mais ça c'est pour les Maliens.
Et au Congo-Brazzaville, qu'en est-il des traitements?
Au Congo-Brazzaville, le traitement des cancers du sein est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments. Mais il m'arrive d'avoir des malades qui sont dans le service, amenés par les parents. Faute de moyens, ils sont abandonnés dans mon service, on leur donne un lit. Mais si vous êtes dans un lit et que les parents ne sont plus là, ça dit que vous ne pouvez même plus accéder au bilan, parce que le bilan, ce sont les parents qui payent le bilan. Mais si vous n'avez pas de bilan, comment voulez-vous accéder au traitement? Donc les malades sont dans un lit et le plus souvent, ils sont amenés à décéder. Mais quand ils sont dans un lit, il faut les nourrir. Mais qui les nourrit? Et c'est pas l'hôpital qui les nourrit, c'est encore le chef de service avec ses collaborateurs qui essaient de trouver un peu d'argent pour acheter un peu de riz, du poisson, des choses comme ça là, pour nourrir ces malades-là. Donc, pour répondre à votre question, le traitement du cancer du sein à Brazzaville, il est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments.
Est-ce qu'il arrive parfois que le gouvernement ou les ONG viennent en aide aux personnes qui souffrent du cancer?
L'an dernier, on a eu un petit coup de pouce de la part du gouvernement, donc il y a eu quelques médicaments. Ce ne sont pas des médicaments princesses qu'on aurait dû utiliser. Ce sont des médicaments intéressants, mais qu'on peut utiliser dans un cas bien précis. Donc, pour me résumer, le traitement est payant. Il n'est pas seulement payant pour les malades en cancérologie, il est également payant pour les malades qui sont en hématologie. Vous savez que les cancers, vous avez des cancers hématologiques. Les lymphomes sont gérés par nos amis hématologues.
Après le traitement, comment est-ce que la femme pourra faire pour vivre avec son cancer ou pour éviter qu'elle ressurgisse?
Aujourd'hui, on connaît mieux les cancers. Le cancer n'est plus synonyme de mort comme à l'époque où dès que vous étiez porteur d'un cancer, c'était une mort inéluctable. Non, aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus les cancers. Donc, il y a eu l'éducation thérapeutique qui est faite, il y a la surveillance. Quand la dame est bien surveillée, il n'y a normalement aucun souci, sauf si la maladie revient. Mais si la maladie revient, il y a encore des traitements et il y en aura toujours.
Quelles sont les chances de guérison du cancer du sein?
Et les chances sont énormes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à travers le monde, on arrive à guérir 7 cancers sur 10 avec l'intelligence artificielle qui est en train de faire ses grands pas avec l'amélioration des techniques de diagnostic précoce, avec les traitements intelligents. Parce qu'aujourd'hui, un cancer du sein ne se traite plus de la même façon. Si nous sommes venus avoir un cancer du sein selon les profils moléculaires, selon les profils biologiques, on ne sera pas traité de la même façon. Donc, non seulement on arrivera à guérir beaucoup de cancers du sein, l'idéal c'est qu'on arrive à guérir 9 cancers sur 10, et le 10e cancer va basculer dans ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc, dans les 20-30 années à venir, je crois que les gens vont mourir très très peu du cancer.
Professeur, pourquoi certaines femmes qui ont un cancer du sein ont une ablation de ce sein, mais d'autres pas?
Tout dépend du stade de la maladie. L'ablation, c'est comme la chirurgie. Donc, il y a des indications précises pour faire l'ablation du sein. Si vous avez un nodule beaucoup plus gros dans votre sein et qui ne répond pas à une chirurgie minimaliste comme une tumorectomie, il faut aller enlever le sein. Vous enlevez le sein et vous allez également enlever les ganglions. Bon, aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle, on ne fait plus les curages schématiquement. Mais nous, comme on n'a pas cette technique à Brazzaville, quand on enlève le sein, on va enlever également les ganglions qui sont sous les selles.
Oumarou Zada Massaoudou veut savoir si le cancer du sein est traitable par la médecine traditionnelle. Je sais que vous faites la médecine moderne, mais elle a posé cette question.
Je ne vais pas ostraciser les tradis thérapeutes, bien au contraire, on en a besoin. Vous savez, lorsqu'on aborde le cancer du sein selon l'angle culturel ou l'angle anthropologique, on n'a pas besoin de ces gens-là, parce que chez nous en Afrique, toute maladie a une signification. On pense que c'est un sorcier, et le sorcier le plus souvent c'est l'angle que je suis, c'est le papa pas que je suis, et on va voir cet antithérapeute-là. Moi, je n'ai pas vu un antithérapeute guérir une âme d'un cancer du sein. Et je serais étonné que ça puisse arriver. Mais ça peut être des traitements complémentaires, pourquoi pas. Il ne faut pas fermer la porte.
Professeur, à partir de quand une femme qui a souffert d'un cancer de sein peut s'estimer être guérie?
Disons 5 ans. Encore qu'après 5 ans, la tumeur peut revenir. Mais si après 5 ans, vous n'avez plus de signe, vous êtes en rémission complète, vous estimez que vous êtes guéri.
En parlant de récidive, Guillaume Omonga, depuis la RDC, il veut savoir qu'est-ce qui peut faire que même après le traitement, la personne finira par avoir la maladie et peut-être même en mourir.
Le cancer, c'est une maladie générale. Quand on découvre le cancer dans un organe, il faut se dire qu'il y a des cellules tumorales qui se promènent à travers les vaisseaux. Donc, ça peut déjà aller se mettre ailleurs. Maintenant, il peut arriver qu'une fois que vous êtes traité le cancer du sein, que vos cellules rentrent en phase de question, comme on le dit, donc ils ne bougent plus. Mais il peut arriver par un mécanisme que nous ne savons pas, que ces cellules-là se réveillent comme ça brutalement et se remettent à coloniser votre organe. Donc, oui, on peut avoir été traité pour un cancer du sein. On a été en rémission complète pendant longtemps, même après 10 ans. Et oui, le cancer revient, malheureusement.
Et c'est au cas par cas, mais ce n'est pas chez toutes les femmes.
Non, pas toutes les femmes. Heureusement, nous avons beaucoup de dames que nous arrivons à guérir du cancer du sein. Mais il n'y a pas que le cancer du sein, il y a beaucoup de cancers. Les cancers du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, on arrive à en guérir pas mal. Oui.
Que devrait faire la femme pour bien vivre l'après-traitement de son cancer du sein?
La femme doit rester attentive, tout simplement. Elle doit être vigilante. Dès qu'il y a une anomalie qui apparaît dans le sein, si on avait fait une petite chirurgie, elle doit repartir voir son cancérologue. Oui, bien sûr, il faut repartir immédiatement, il ne faut pas attendre.
Au niveau de Brazzaville, de quel soutien bénéficient les femmes atteintes du cancer du sein?
Au niveau de Brazzaville, il commence à avoir des associations de femmes porteuses de cancer du sein, ou bien des femmes qui ont été guéries du cancer du sein. Donc, il y a un soutien. Je crois que c'est fondamental. Il y a cette forme de solidarité qui s'est installée comme ça. Donc, on les tient psychologiquement. Il se passe des choses. Je crois qu'il y a comme un frémissement. Et c'est bien que des dames qui ont été guéries d'un cancer du sein se montrent à d'autres qui sont porteuses d'un cancer du sein, qui sont en traitement, pour motiver celles qui sont malades à accepter le traitement et aller vers le traitement.
Est-ce qu'éviter de prendre la pilule peut moins exposer la femme au cancer du sein?
À l'époque, on fantasmait même sur la pilule, parce que quand vous prenez la pilule, vous prenez, ce sont des hormones que vous prenez. On pensait que la pilule pouvait induire un cancer du sein. Cette idée a été battue en brèche. Non, je crois qu'il faut rester tranquille, il faut s'observer.
Il y en a qui veulent savoir s'il y a la ménopause, il y a des choses auxquelles on doit être plus attentif pour éviter d'attraper un cancer du sein. Est-ce que le risque est plus élevé pendant la ménopause ou pas?
Le cancer, c'est d'abord une maladie du vieillissement. Plus on vieillit, plus la probabilité de faire un cancer est élevée. Donc on a tendance à faire un cancer quand on est ménopausé. C'est pour ça qu'on a décidé à travers le monde, enfin pas encore dans nos pays, que le dépistage se fasse à partir de 50 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, vous partez faire une mammographie pour la surveillance.
Léo-Émile Kankondé, depuis le Kasaï central en RDC, veut savoir pourquoi jusqu'à ce niveau, les chercheurs ne parviennent pas à maîtriser cette pathologie qu'on appelle cancer du sein.
Ah non, je ne peux pas laisser dire ça. Les cancers sont des affections extrêmement complexe. C'est-à-dire que la manière dont on est un cancer aujourd'hui, c'est quelque chose de très très complexe. Parce que vous avez plusieurs phénomènes qui interviennent. Mais on a fait des avancées considérables. Les traitements que nous appliquions dans les années 80 ne sont pas les traitements du 21e siècle. On a beaucoup progressé dans les traitements. D'abord dans le diagnostic et dans le traitement. Aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus des femmes atteintes de cancer du sein. Donc on ne peut pas dire que le travail ne se fait pas. Non, les chercheurs travaillent. Je vous ai dit que l'idéal serait que le cancer du sein, même s'il est à un stade très avancé, devenue une maladie chronique et qu'on n'en meurt plus. Plus on va avancer dans le temps, plus la recherche se fait, plus on aura des traitements innovants.
Quelles innovations pourrait-il y avoir?
Chacun aura son traitement. Si vous appelez Madame A, votre traitement demain sera pour Madame A. Et pourtant, avec Madame B, vous avez le même cancer du sein. Mais comme je vous l'ai dit pendant l'émission, les profils biologiques, les profils moléculaires sont totalement différents. Donc les traitements seront donnés en fonction de ces profils-là. Donc il faut rassurer le monsieur que le travail se fait. Nous qui sommes en train de prendre un peu d'âge aujourd'hui parce qu'on tend vers notre finitude, dans 20 ans, nous aurons nos jeunes cancérologues certainement plus outillés, plus armés, avec des traitements innovants.
Alors, professeur, il y a Alfred de Nobel qui a appris que si les femmes donnent naissance aux enfants et qu'elles allaitent leurs enfants, peut-être que ça pourrait diminuer le cancer du sein. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. L'allaitement est un facteur protecteur. Parce que quand vous allaitez, ça dit que vous avez amené votre sein à maturation, c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on conseille à nos femmes de faire des enfants. Vous savez que l'Afrique est encore sous-peuplée. On a besoin d'enfants.
Donc l'allaitement et la maternité peuvent protéger du cancer du sein.
Ah oui, oui, bien sûr. Il faut encourager nos femmes, nos soeurs, nos enfants à faire des enfants. Il ne faut pas se laisser aller à un discours, à la limite, un peu condescendant qu'on a entendu, où on dit que les Africains font beaucoup d'enfants. On entendait un discours comme ça, je préfère ne pas citer le nom de ce président-là. À la limite, c'était même une insulte pour l'Afrique. Nous, on doit faire des enfants. L'Afrique a besoin d'avoir ses enfants. Et il en faut, d'ailleurs.
Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à toutes les femmes, quel que soit leur âge, juste pour se prémunir du cancer du sein, même s'il n'y a pas vraiment une prévention à proprement parler?
Alors, la première chose, c'est qu'elles doivent être regardantes. Elles doivent apprendre à surtout palper les seins. Deuxième chose, elles doivent voir régulièrement un gynécologue. Et puis, à partir de 40 ans, pour ce qui concerne l'Afrique, il faut que les femmes viennent au dépistage, qu'on fasse une mammographie, qu'on regarde s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est en Afrique. En Europe, c'est 50 ans. En Afrique, parce que nous, la moyenne d'âge des cancers du sein est plus faible que celle qu'on observe en Europe. Mais c'est surtout se regarder les seins, ne pas attendre que la boule grossisse pour dire que comme je n'ai pas mal, je peux aller voir mon gynécologue ou bien mon médecin généraliste. Dès que vous observez une anomalie, même un mamelon, si c'est un curve, une petite plaie qui arrive autour du mamelon, une petite plaie au niveau de la peau du sein, il faut aller voir le médecin. N'attendez pas. Refusez qu'on fasse des scarifications sur le sein. Si vous voyez un gynécologue qui dit « je vais vous enlever la boule comme ça », refusez ça. Vous dire non, non, non. Est-ce que vous avez déjà fait un petit prélèvement pour savoir exactement ce qui se passe? C'est le message que vous devez faire passer à nos auditeurs.
Merci beaucoup encore de votre disponibilité.
Oh, madame, c'est moi qui vous remercie.
De suivre l'interview que nous a accordé le professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marie-Ngouabi en République du Congo. Voici à présent le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou. Cette semaine, dans Carnet de santé, à l'occasion du mois de la sensibilisation au cancer du sein, le mois d'octobre, nous mettons en exergue les efforts pour réduire l'incidence de cette maladie en Afrique. Le Ghana lance la construction du premier centre complet de traitement du cancer dans le pays. Ensuite, Gloria Kida, cofondatrice et PDG de la fondation Shuja Cancer à Dar es Salaam, partage son expérience avec le cancer du sein. Enfin, comment des empreintes digitales pourraient-elles aider au dépistage du cancer du sein? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le cancer du sein est au premier rang des décès par cancer chez la femme. Il se produit lorsque des cellules anormales du sein se développent de manière incontrôlable et forment des tumeurs. Ces tumeurs peuvent se propager dans tout le corps et devenir fatales si elles ne sont pas traitées. 670 000 personnes dans le monde sont décédées du cancer du sein en 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé. Bien que la sensibilisation mondiale au cancer du sein ait augmenté, de nombreux pays africains sont confrontés à des défis importants en matière de dépistage précoce, de diagnostic et d'accès aux soins. Au Ghana, l'ONG Breast Care International a commencé la construction d'une unité de soins complète d'un coût de 100 millions de dollars à Kumasi. Cette installation offrira des diagnostics avancés et des soins de qualité, pas souvent accessibles dans plusieurs pays de la sous-région. Sena Noutod en parle depuis Kumasi. Le récit est de Gini Niwa.
À Ejisu, au Ghana, des survivantes du cancer du sein, des militantes et des professionnels de la santé dansent pour célébrer une étape importante dans la lutte contre le cancer en Afrique. Breast Care International, BCI, a donné le premier coup de pioche pour la construction d'une unité historique de lutte contre le cancer à Kumasi.
Je suis très enthousiaste à propos du cancer compréhensif de l'excellence. C'est le moment et cela a été en préparation depuis que le docteur Wiaf a commencé ce travail en 2002 avec la passion de sauver la vie des femmes, d'abord au Ghana et ensuite pour servir toute l'Afrique de l'Ouest.
Le projet mené par la BCI s'inspire de son succès dans la lutte contre le cancer du sein. Grâce à des campagnes de sensibilisation et à des traitements, la BCI compte aujourd'hui plus de 900 survivants du cancer du sein, contre moins de 20 en 2008.
Là où nous sommes parvenus avec l'information sur les cancers du sein, les efforts de sensibilisation au cancer du sein, les choses que nous avons faites pour le cancer du sein, nous pourrions utiliser la plateforme pour sensibiliser à d'autres cancers.
Le centre de cancérologie complet traitera toutes les questions liées au cancer dans la sous-région, offrant ainsi des soins de santé accessibles sur le continent. Une défenseuse a raconté comment l'absence d'un tel centre en Afrique a coûté la vie à un ami de la famille.
C'était cette année. J'ai eu un garçon de 4 ans, il est mort de cancer. Nous avons fait ce que nous pouvions. Finalement, comme cela devait arriver, nous avons dû l'envoyer en Inde. Nous sommes allés en Inde, nous sommes revenus, il a fait une rechute et il est mort.
Darko a expliqué qu'il n'y avait pas de centre de cancérologie à proximité pour s'occuper de la rechute d'urgence. Tout cela devrait changer lorsque le centre de cancérologie, d'une valeur de 100 millions de dollars, sera achevé. La première phase du projet devrait être achevée d'ici 3 ans grâce à une aide d'$1 million du fonds Cancer Moonshot de la Maison Blanche. Le centre sera au service des patients et contribuera également à la recherche.
L'objectif est d'étendre la campagne de lutte contre le cancer du président Biden à l'échelle mondiale. De plus, cet impact se répercute et profite aux États-Unis. Cet été, des étudiants américains de l'Université de Pennsylvanie sont venus au Ghana et ont fait un apprentissage.
Le centre fonctionnera selon le principe de l'équité en veillant à ce que chaque patient reçoive un traitement, quelle que soit sa situation financière.
Nous ne voulons pas qu'un patient se rende à ce centre d'excellence pour le traitement du cancer et qu'il soit refusé parce qu'il n'a pas d'argent.
Le centre qui fonctionnera grâce à des fonds publics et privés proposera des diagnostics avancés, des radiothérapies et des soins personnalisés. Selon la revue The Lancet, l'Afrique subsaharienne est confrontée à une grave pénurie d'installations de traitement du cancer, ce qui devrait faire doubler le nombre de décès dus au cancer d'ici à 2030. Cette nouvelle unité vise à combler cette lacune, à améliorer l'accès aux soins et à réduire le fardeau du cancer dans toute l'Afrique.
Quelle analyse faites-vous de la prise en charge et du soutien des patients du cancer du sein dans votre communauté? Pensez-vous que les campagnes comme Octobre Rose sont assez efficaces pour la sensibilisation? Voici quelques réactions du Nigeria.
Sentir des masses et avoir des douleurs au niveau des seins lorsqu'on les presse doucement est un des signes ou symptômes du cancer de sein. Pour mieux soutenir quelqu'un qui lutte contre le cancer de sein, je crois qu'il existe des ONG qui s'occupent de femmes atteintes de ces cancers pour les éduquer, les encourager à faire des examens réguliers dans les hôpitaux et à prendre leur traitement au sérieux.
Les signes et symptômes, c'est l'examen dont je suis informé en tant qu'homme. Vous devrez être capable d'aider votre femme à vérifier en touchant ses seins. Une fois que vous remarquez quelque chose, il suffit de la conduire à l'hôpital.
En réalité, je ne connais pas grand-chose, mais je sais que lorsque nous étions au lycée, il y avait des séances de conseil où l'on nous disait qu'une fille, en grandissant, devait toucher ses seins du haut vers le bas. Si elle sent une masse, c'est un signe à détecter rapidement et il faut immédiatement se rendre à l'hôpital. C'est tout ce que je sais à ce sujet.
Les symptômes ou signes du cancer du sein peuvent apparaître de plusieurs façons, à la fois internes et externes. Ce que je connais le mieux, ce sont les signes externes. Tout d'abord, la texture du sein n'est généralement pas normale. Elle est souvent rugueuse. Il y a des boutons comme des démangeaisons sur le corps que je ne sais pas trop comment expliquer. Quand il y a ces boutons, cela signifie quelque chose qui a été gravé et provoque des démangeaisons. Ces boutons produisent un liquide qui se répand autour du sein et crée un encore plus de boutons ailleurs. C'est assez étrange et cela rend la peau du sein rugueuse. Je ne sais pas si vous voyez ce que l'on appelle la peau de fraise avec les petits trous autour. C'est ainsi que la peau du sein devient. Et à l'intérieur, je sais qu'il y a des masses qui provoquent des douleurs intenses d'une manière ou d'une autre.
Le professeur Blaise Nkegum est oncologue au Cameroun. Suivons ce qu'il pense de la prévalence du cancer du sein en Afrique et de ce qui est fait pour aider les personnes qui souffrent de cette maladie.
Nous avons des cancers chez les sujets noirs africains qui tournent autour, qui ont environ 40 ans. Et c'est complètement différent de ce qu'on trouve ailleurs parce que chez les sujets caucasiens, on va trouver les cancers à partir de 50-60 ans. Évident que le cancer du sein qu'on trouve chez nous a des facteurs génétiques. Et ça a été d'ailleurs démontré chez des patients, chez les noirs qui vivent aux États-Unis. Il faut savoir aussi que l'exposition a augmenté. Il y a ce qu'on appelle donc les facteurs de l'environnement. L'air que nous respirons contient plus de 100 facteurs carcinogènes. Et on connaît bien toutes les voitures qui roulent dehors, sont des voitures qui ne roulent plus ailleurs. Dans le monde entier, 20% des cancers sont dus à des agents infectieux. Ce sont des cancers qu'on peut prévenir. Ce sont des cancers dont on peut guérir. Par exemple, le cancer du foie est dû au virus de l'hépatite B. Le cancer du col est dû au virus de HPV. Le cancer nasopharyngé. Comment est-ce que pour le cancer du sein, on ne devrait plus mourir? On ne devrait pas mourir du cancer du sein parce que la solution est connue. La solution est connue. Une patiente qu'on trouve avec une tumeur de 3 cm, on enlève juste la tumeur et guérit. On peut le faire là au bloc opératoire en une heure de temps, elle est guérie. Le problème, c'est que 80% des patients, on ne va pas pouvoir trouver la lésion à ce stade-là. On va trouver une lésion qui est déjà évoluée. La chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, ce sont des traitements de base. Parce que, n'oubliez pas, à l'heure où je vous parle, il y a déjà ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées sont des nouveaux traitements qui vont, en plus de guérir le malade du cancer du sein, avoir la différence d'être bloqué uniquement des récepteurs. Le seul problème, c'est le coût. Parce que certains de ces médicaments coûtent jusqu'à 3 millions de francs. La dose, et nous avons des malades qui prennent le traitement pendant 5-8 ans. L'obésité est un facteur de risque évident de cancer du sein. Donc, les patients qui ont du surpoids, les patients qui ont du mauvais cholestérol et les hommes aussi. D'ailleurs, pour la même raison, les hommes qui ont du surpoids et qui ont des gros seins ont presque le même risque de développer des cancers du sein que les femmes. Donc c'est un facteur de risque évident. C'est un facteur de risque évident à cause donc du mauvais cholestérol, à cause du cycle hépatique de ces lipides-là. Donc ce que nous on conseille aux patients, c'est même de prévenir le cancer en faisant du sport, en faisant de l'exercice physique, en perdant du poids, en luttant contre la dépression.
Gloria Kida est cofondatrice et PDG de la fondation Shuja Cancer à Dar es Salaam en Tanzanie. Elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle utilise son expérience et sa plateforme pour lutter contre la maladie et autonomiser les femmes. Elle partage son expérience.
En 2010, je faisais des visites mensuelles chez mon gynécologue simplement pour trouver le meilleur moyen de contraception pour moi. C'est au cours de ces visites que le médecin a remarqué une masse dans mon sein gauche. Il m'a conseillé de faire un dépistage. J'ai donc fait une mammographie et une échographie. Les résultats ont montré qu'il y avait une masse dans mon sein gauche, mais le médecin a affirmé qu'il n'y avait aucun signe de cancer. On m'a dit que c'était un fibroadénome, que j'ai ensuite cherché sur Google pour découvrir que c'était bénin, donc non cancéreux. Le médecin m'a conseillé de refaire les examens tous les 9 mois. En mai 2011, j'ai refait les mêmes examens dans un autre hôpital et les médecins ont constaté que la masse était toujours là. Je suis rentrée chez moi. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait un problème. Cela ne pouvait pas être rien. En décembre, nous avons décidé de partir en vacances. J'ai appelé ma belle-sœur aux États-Unis pour lui dire que nous venions en vacances car ma fille travaillait à l'ONU, alors nous devions y aller. J'ai décidé d'emporter avec moi tous mes résultats et documents médicaux. Une fois là-bas, j'ai décidé de consulter un médecin. Nous avons passé en revue les résultats de mes examens et ils ont suggéré que je refasse tous les examens. J'ai refait la mammographie et l'échographie et 2 heures plus tard, on nous a rappelés. C'était une nouvelle bouleversante pour nous. Mon mari, ma belle-sœur et moi-même avons été convoqués à l'hôpital. Le médecin nous a annoncé que malheureusement, il semblait y avoir une masse dans mon sein et qu'il soupçonnait un cancer du sein. Mais il fallait faire une biopsie. J'ai donc fait la biopsie et j'ai reçu les résultats de mon rapport de pathologie 3 jours avant Noël. Je me suis dit que c'était un gros cadeau de Noël. Ce n'était pas facile. Après l'annonce de la nouvelle, nous avons tous fondu en larmes. Ce fut un choc total pour nous, car pendant un an et demi, on nous avait assuré que je n'avais rien. Maintenant, on nous disait que j'avais un cancer du sein. Cela nous a vraiment bouleversés, car nous n'étions pas préparés à cette nouvelle. Nous étions convaincus que ce n'était rien et que nous allions simplement confirmer que tout allait bien. Un dépistage précoce et une détection rapide sauvent des vies. Les gens ne devraient pas avoir peur. Il y a de l'espoir. Nous essayons de dire aux gens et de leur donner l'espoir qu'ils atteindront leurs rêves et qu'ils finiront bien, quoi qu'il arrive.
Ce magazine Santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. À la réalisation, Vasco Valaric. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre